trouvé à analyser, à tomber sur un site internet qui montrait la dette publique par habitant en France. Et je me suis pris au jeu. Alors, chaque habitant français, au jour d'aujourd'hui, même celui qui vient de naître, a déjà une dette de 40 459 euros. Et il vient à peine de naître, le pauvre. Alors, j'ai voulu regarder comment ça se passe, parce qu'il y avait un compteur. Et en effet, la dette de la France, elle augmente de 2 665 euros par seconde. Là, je viens juste de vous le dire, il y a eu déjà 5 000 euros qui sont partis. Alors, j'ai fait un calcul. Ça veut dire 159 900 euros par minute. 9 594 euros, 14 000, pardon, euros par heure. 230 256 000 par jour. Alors, si après vous voulez vous amuser à compter les zéros derrière, cela pour dire que cette dette, elle est croissante. Elle nous concerne tous. Alors certains pourraient se dire, il est vrai que la mort physique met fin à tout remboursement personnel, mais n'oublions pas, ce que nous ne remboursons pas sera légué aux générations futures, n'est-ce pas? Et c'est pour moi particulièrement inquiétant, parce qu'on laisse une dette, et parfois on néglige de réfléchir à la dette qui est celle spirituelle. Et c'est de cela que je voudrais vous parler. Parce que la dette de la France, elle va continuer à grandir seconde après seconde. On va laisser ça à ceux qui doivent le faire. Mais où nous en sommes-nous avec notre dette vis-à-vis de Dieu? Cette dette, elle s'appelle péché. Malheureusement, elle grandit. Vous savez, je suis en train de réfléchir pas mal de choses et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont parfois, même des croyants, se représente le péché comme une simple dispute entre Dieu et l'homme. Selon eux, nous avons juste besoin de présenter nos excuses et d'accepter le pardon divin. Or, se représente le péché comme une simple querelle, pardon, d'amoureux. C'est mal connaître la nature de notre relation avec Dieu et communiquer l'idée qu'il n'y a pas d'infraction, de justice violée, de juste courroux ou de saint jugement, et en fin des comptes que nous n'avons pas besoin que quelqu'un d'autre prenne sur lui notre châtiment. Triste tout ça. Pourtant, la Bible nous enseigne effectivement que le péché est la rupture de la relation que nous unit à Dieu. Elle enseigne aussi que cette rupture est l'expression de notre rejet de Dieu en tant que personne investie de l'autorité royale. Le péché n'est pas seulement un adultère, bien qu'il soit aussi cela, il est également une révolte. Il n'est pas seulement déloyauté, n'est pas seulement question de déloyauté, il est aussi également trahison. Si nous réduisons le péché à une simple rupture d'une relation, et nous ne voyons pas qu'il consiste en une révolte déloyale de quelqu'un qui nous aime profondément, c'est qu'on n'a pas compris qu'est-ce qu'est le péché. Et notre dette continue d'augmenter instant après instant. Et nous sommes conscients de cette dette, et pourtant nous nous sommes peut-être habitués à vivre avec cela. Pourtant, Romains chapitre 3, versets 23 à 25, il nous dit quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, cette dette nous concerne tous. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas cette dette. Alors moi, je faisais un exemple avec la France, mais croyez-moi, tous les pays connaissent malheureusement ce même constat. Et la parole de Dieu, il dit, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption, qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son nom, afin de montrer sa justice. En effet, j'aimerais vous parler aujourd'hui du fait qu'il n'y a pas de rédemption sans rédempteur. Comment comprendre ce mot, puisqu'il est question, par le moyen de la rédemption, de voir notre dette effacée? Qui a des dettes? Qui en a eu? on ne dort pas bien quand on a des dettes. On est toujours soucieux de se dire, est-ce qu'on va arriver à couvrir nos dettes? N'est-ce pas? Petite ou grande qu'elle soit. Alors peut-être que certains ne se posent plus ce problème, ils ont tellement de dettes, ils se disent, en tous les cas, on fait des dettes pour payer des dettes et des dettes pour payer les dettes des dettes. Mais le problème, c'est que tôt ou tard, il faut rendre des comptes. La parole de Dieu nous dit que le péché représente le fait spirituel et moral, la défaite spirituelle et morale de la créature face à son créateur. Jean chapitre 8, verset 34, c'est Jésus qui dit en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Alors en analysant tout ça, je suis allé un peu chercher dans les mots rédemption. En effet, qu'est-ce qu'est la rédemption? La rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix. La rédemption est annoncée dans la Bible et elle trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Alors quand on va chercher le mot rédemption, on trouve trois mots qui font partie de cette pensée profonde. Trois mots qui sont en grec. Le premier, c'est agorazo, qui veut dire acheter un objet au marché. Acheter un esclave. Acheter quelqu'un. Nous, ça nous dépasse parce qu'on a le sentiment qu'on n'ait jamais été esclave. Non, on s'est toujours senti libre. Alors la parole de Dieu qui nous dit que celui qui commet le péché est esclave du péché, on a du mal à concevoir cela. Pourtant, le péché nous lie les pieds et les mains, nous empêche d'avancer tel qu'on aimerait. On ne fait pas ce qu'on voudrait parce qu'on est lié par le péché. L'apôtre Paul dira, le bien que je veux faire, je ne peux pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, c'est celui-ci que je fais. En réalité, ça nous montre les limites de notre liberté personnelle. Je me rappelle d'une visite que j'avais fait à quelqu'un, et il avait un chien dans sa cour, un chien de garde, et ce chien, pour pouvoir le faire bouger, il lui avait mis une longue corde en acier, un câble énorme. Et sa chaîne était attachée à ce câble, comme c'était un chien de garde. Je peux vous dire, il était impressionnant. Heureusement qu'il était attaché. Et ce chien, il courait dans tous les sens. Mais arrivé au bout de ce long câble en acier, la chaîne lui rappelait qu'il était toujours attaché. Il y a des choses dans notre vie qu'on doit réaliser parce que tant qu'on ne les réalise pas, on s'habitue à vivre comme ça. J'ai appris que certains, dans le passé et encore aujourd'hui, qui s'occupe de travailler avec les éléphants. Hein, au démarrage, quand l'éléphant est petit, pour le dresser, pour l'habituer, il l'attache avec une chaîne à sa patte. Et la réaction première de l'éléphant, c'est d'essayer de se libérer. Et forcément, il se blesse. Et cette blessure, elle reste marquée dans sa mémoire. Au point que quand il est grand, une simple ficelle attachée à sa patte et cette petite cordelette mise avec un pieu dans la terre, tout simplement suffit à ne pas le faire partir. Pourquoi? Parce que dès qu'il tire un peu, il sent cette ficelle lui tenir la patte, il a le souvenir de la souffrance et il ne va pas plus loin. Pas grand-chose pour arrêter un éléphant. Il est parfois dans notre vie des choses qui nous lient et dont on a du mal à se séparer parce qu'on n'a pas encore accepté que Christ ait pu couper la corde, nous enlever de ces liens qui nous retenaient. Alors, je parlais d'acheter un objet. En effet, l'homme est considéré comme esclave, vendu au péché et condamné à mort. Romains chapitre 6, verset 23, il dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voilà ce que Christ veut nous offrir. Mais il faut accepter tout d'abord de considérer notre état d'esclave, parce que tant que je ne comprends pas que je suis esclave, je ne cherche pas la liberté. Je ne suis pas soucieux de ma situation parce que je n'en ai pas pris conscience. Dieu merci qu'au moment où, en réalité, on se rend compte d'être esclave, on peut aussi considérer qu'on est susceptible d'être racheté, mais à quel prix? Apocalypse chapitre 5, verset 9. Apocalypse chapitre 5, verset 9, il dit, et il chantait un cantique nouveau, il disait, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Le seul prix qui pourrait permettre de payer cette dette pour quelqu'un qui est esclave, c'est forcément un prix énorme, le sang de Jésus-Christ. Si le premier mot veut dire acheter un objet, le deuxième veut dire exagorazo, acheter et amener un objet hors du marché. Pourquoi? C'est-à-dire l'acheter pour le soustraire à toute nouvelle transaction. Seigneur ne veut pas simplement acheter notre vie, mais, excusez-moi, nous sortir de tout commerce possible et imaginable. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous encourage à ne pas revenir à notre état premier du péché. Il est question pour nous de garder notre liberté. Une fois qu'on a vécu cette délivrance accordée par le sacrifice de Christ, il est important pour nous de ne plus être une marchandise qui est en vente. Et malheureusement, c'est nous-mêmes qui nous remettons à nouveau dans le circuit de vente. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. En effet, celui qui vient pour agir, le Rédempteur vient pour nous sortir d'une situation difficile. Et Galates chapitre 4, versets 4 à 7, il nous dit, Galates chapitre 4, versets 4 à 7, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Cet aspect souligne le caractère définitif de la rédemption. Mais en réalité, il est question pour nous pas seulement de la recevoir, mais aussi de la vivre jour après jour, vivre comme quelqu'un qui a été libéré. Dans les visites que j'ai pu faire dans les prisons, vous avez dans les prisons des personnes qui ont des peines courtes, moyennes, longues. Et plus une personne passe sa vie en prison, moins il se sent rassuré en sortant parce qu'il perd quelque part ses repères. Il est tellement habitué à être confiné avec des horaires réglés que quand il sort, il le vit très mal. Depuis combien de temps êtes-vous esclave? Depuis combien de temps êtes-vous enfermé dans une situation qui en effet vous retient et vous rend esclave? Alors parfois on pourrait se dire, mais si je sors de ça, comment je vais vivre? Combien de fois les personnes ont pu dire, mais comment peut-on vivre sans péché? Non, c'est impossible. Certes, à l'homme, oui, mais à Dieu, tout est possible. Et les questions pour nous, véritablement, d'apprendre à vivre autrement, à vivre autant qu'hommes et femmes libres, puisque nous savons à quoi le péché nous ramène. Puisque nous sommes conscients que le péché nous ramène en nouveau en arrière, à l'image, excusez-moi, de ce chien qu'à un moment il se retrouve au bout de sa corde. Une fois, une personne que j'ai rencontrée me disait qu'elle vivait comme une reine. C'était une femme. Elle vivait une situation particulière. Elle était la maîtresse d'un homme marié. Et dès que cet homme, il l'appelait, elle devait être chez elle pour l'accueillir. Certes, elle ne manquait de rien. Mais lui, il avait le droit, et quand lui l'appelait, elle devait quitter tout ce qu'elle faisait, elle devait être chez elle. Elle me disait, mais vous savez, j'ai la belle vie. Ah bon? Ah bon? J'ai dit, vous savez, vous prenez un oiseau, vous le mettez dans une cage, qu'elle soit en bois, en métal ou en or, ça reste une cage. J'ai dit, et aujourd'hui, vous êtes en cage. Parce que vous savez que votre situation n'est pas bonne, n'est pas digne. Vous êtes devenu esclave d'une situation. Oui, mais pourvoir tous mes besoins. À réfléchir. Il est question, dans la rédemption, donc d'être racheté, d'être sorti de toute forme de marché. Et la parole de Dieu qu'on a lu tout à l'heure, il nous parle aussi de devenir héritier, co-héritier, n'est-ce pas? Il est question pour nous, finalement, d'être détaché, être rendu libre. Libre. Ne plus être retenu par quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin. De pouvoir avancer, découvrir ce que Dieu a préparé pour nous. Parce que le péché, en réalité, nous empêche de vivre ce que Dieu a préparé pour nous. De vivre la bénédiction de Dieu, le secours de Dieu, la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché, ben on est retenu. Parfois, le péché arrive au point de rendre encore plus qu'esclave moral et spirituel. On devient l'objet, une marionnette. Dans la parole de Dieu, nous voyons des hommes et des femmes venir à Jésus, mais ils étaient esclaves. Esclaves des esprits, être possédés. Certains pourraient se dire, mais ça n'existe plus. Ah ben. Je peux vous dire que j'en ai malheureusement rencontré des personnes qui étaient rendues esclaves. Mais Dieu soit béni parce qu'il a toujours l'autorité de libérer. Parce que dans le nom de Jésus, il y a puissance. En effet, c'est lui qui vient libérer les cœurs qui sont enchaînés. La parole de Dieu nous dit dans la lettre de Tite, chapitre 2, verset 14, Tite 2, 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Amen. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez qu'on parle d'une femme qui avait une vie un peu déréglée et qui en plus était possédée. Jésus en a fait une femme libre. Il y a eu des hommes qui étaient eux aussi possédés et Jésus les a rendus libres. C'est la preuve que Dieu a l'autorité pour libérer les cœurs. Il est question pour nous d'accepter d'être rachetés. Parce que quelque part, oui, on peut être libre extérieurement, mais on peut être encore enfermé et emprisonné à l'intérieur. Emprisonné dans nos pensées, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des pensées qui vous emprisonnent? Oui ou non? Il y a des choses parfois qui nous dépassent, on ne s'en rend pas compte, mais on est devenu peut-être craintif à l'extrême. En ce moment, beaucoup, et on peut comprendre, hein, il faut être sage. Mais il ne faut pas tomber dans la peur non plus, n'est-ce pas? Se frotter les mains 50 000 fois par jour, par peur que, n'est-ce pas? À refuser tout contact, même parole. Je me rappelle d'un moment, j'étais en train de faire des courses et une personne, elle s'est énervée dans la file, alors toutes les distances étaient respectées parce que quelqu'un, trois rangées plus loin, il était en train de parler. Il ne faut pas parler. C'est trop dangereux. Et je me suis dit, Seigneur, malheureusement, cette personne, elle vit dans un emprisonnement terrible. Alors on pourrait se dire, oui, mais ça va passer une fois que. Vous savez, on peut sortir comme le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Mais est-ce que l'Égypte était sortie du cœur du peuple d'Israël? Bien des personnes continueront à vivre dans la peur et dans la crainte parce qu'en effet, ils n'ont jamais été véritablement détachés et rendus libres. Alors que le Seigneur, il vient pour purifier et nous rendre zélés pour les œuvres qu'il a préparées pour nous. Ça veut dire nous enlever tout ce qui pourrait être pour nous encore une souillure. La rédemption s'opère en vertu de l'efficacité du sacrifice de Christ et de la puissance de Dieu. Hébreux chapitre 9, versets 12 à 14. Hébreux 9, verset 12 à 14. Mais Christ, et entrer une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Amen. Quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, ça vous est arrivé de faire quelque chose de pas bien? À qui est arrivé? Ok. En rentrant à la maison, vous vous lavez les mains. Est-ce que du coup, vous vous sentez mieux? Pourquoi? Et pourtant, vous vous êtes lavé les mains. Ah, peut-être vous avez pris une douche. C'est mieux. On sent bien, on sent bon après. Non? Est-ce que le problème a été réglé? Et vous voyez, quelle qu'il soit action religieuse que nous pouvons accomplir, tant que notre cœur n'est pas amené à être purifié par Jésus-Christ, quoi qu'on fasse, on porte en nous la marque du péché. Parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur. C'est notre cœur. Alors il est question pour vous, nous, chacun, de recevoir la rédemption et de vivre en conséquence. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui parle, chapitre 8, versets 31 et 32. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Mais de quelle vérité nous parle-t-il Jésus? Quelle est la vérité que nous avons besoin d'entendre et d'accepter et dans laquelle il faut croire? Parce que ce n'est pas juste question d'entendre la vérité. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent être dans la vérité. Certains défendent certaines vérités. Mais là, il est question de la vérité quant à notre vie de pécheur et le fait que la seule possibilité pour nous de rencontrer Dieu, c'est de passer par Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et d'ailleurs, il dira « Nul ne vient au Père que par moi ». Quelles qu'ils sont les œuvres que je peux faire par moi-même, même si elles sont bonnes, elles sont super, je peux tout donner. Mais si mon cœur n'est pas à Christ, je ne peux pas acheter mon salut. Ce n'est pas parce que j'ai tout donné que demain je ne peux pas être touché par quoi que ce soit. On ne peut pas acheter le ciel. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de passe-droit. J'entendais l'autre jour quelqu'un parler des études et disait « Oui, j'ai pu y accéder parce que j'ai eu piston. » Vous connaissez ça? Ça existe aussi ici. Bon. Tout le monde, partout dans le monde, il y a les mêmes problématiques, n'est-ce pas? Mais il n'est pas question de pouvoir entrer comme ça dans le ciel. On peut se vouer à tel ou tel ou tel ou tel autre saint. Excusez-moi, mais ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est par Jésus seul. Parce que c'est lui qui a payé le prix, c'est lui, la rédemption, elle est en lui, c'est lui qui peut simplement et seulement, véritablement changer notre vie. D'ailleurs, on l'a lu, et j'aimerais le relire avec vous, Romains chapitre 3, versets 23-25, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice. Il est question de placer notre foi en Jésus-Christ, le seul qui puisse véritablement nous sauver. J'ai analysé que quand on apprend qu'on est malade, on souhaite être traité, soigné par le meilleur des médecins. C'est vrai ou pas? Je ne pense pas qu'on choisisse d'aller chez le cordonnier pour lui dire, écoutez, j'ai besoin d'une opération à cœur ouvert. Vous avez tellement bien réparé mes dernières bottines que je me suis dit que vous savez bien faire. Non? C'est vrai ou pas? Et quand on va chez le médecin et qu'il est question de soigner, est-ce qu'on lui demande d'enlever un peu du problème en nous? Ou est-ce qu'on lui dit enlever tout et surtout nous en laisser rien? Et pourtant, avec le péché, parfois, nous, on aimerait que Dieu nous sépare de ce qui nous dérange, mais qu'il nous laisse ce qui nous arrange. Je discutais avec quelqu'un dernièrement qui me parlait de ses problèmes. Je lui disais, mais vous avez une solution, c'est Jésus. Oui, mais moi, je suis voué à tel et tel et tel et tel saint et tel... Je dis, mais ils ne pourront rien pour vous. C'est que Jésus, et vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Ah, ça, on ne touche pas. Je ne suis pas venu pour parler de ça. Je dis, mais le problème, il est là. Je dis, imaginez, vous découvrez que vous avez un cancer. Qu'est-ce que vous vous occupez à vous dire? Vous enlevez juste mes problèmes de je ne sais pas quoi, mais vous ne touchez pas au cancer, s'il vous plaît. Hein, parce que ça me donne des droits. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Non? Et nous, parfois, on voudrait que Dieu nous enlève que ce qui nous dérange, alors que Dieu veut enlever tout ce qui peut nous tuer. Spirituellement. Alors, Jésus dira qu'il est question pour nous de croire en lui. J'aimerais terminer. Toujours avec un texte de la lettre aux Romains au chapitre 6, versets 22 et 23, qui dit « Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Pourquoi il parle d'esclaves? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais nous avons lu tout à l'heure, si vous avez bien fait attention, n'est-ce pas? Mais maintenant, libéré du péché et esclave de Dieu. Parce qu'en réalité, du moment qu'on rencontre Dieu, on désire le servir par amour. C'est l'amour qui dirige notre cœur et qu'on a envie de tout faire ce que Dieu a prévu pour nous. Ce n'est pas l'esclave réduit à rien. Ce n'est pas l'esclave humilié et détruit puisque Dieu nous élève au rang de héritier et co-héritier. D'ailleurs, le mot esclave veut dire serviteur. Pasteur. La traduction du mot, c'est esclave. Ça veut dire qu'on se donne à Dieu de tout notre cœur. Alors si on n'appartient pas à Dieu, malheureusement, on appartient à l'ennemi. Sauf que, un, c'est un esclavagiste qui détruit. L'autre, c'est quelqu'un qui nous élève. Il est question pour nous, certes, de prendre conscience de notre vie de péché, de prendre conscience de notre dette, mais nous pouvons aujourd'hui pas seulement être rachetés, pas seulement être sortis, excusez-moi, de tout commerce possible et imaginable, mais d'être libérés dans notre cœur, dans notre âme. D'ailleurs, quand le pardon de Dieu vient dans le cœur, il y a une paix profonde qui vient et qui nous fait sentir véritablement libres. Libre parce que Christ a payé notre dette. Amen. Sommes-nous prêts à reconnaître nos dettes devant Dieu? Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, vu comme ça augmente la dette, Seigneur, j'arriverai jamais à la payer. Non? J'analysais combien de temps on peut mettre à dire 2665. Ça fait combien de temps? 2 secondes au moins, monsieur le trésorier? Déjà, le compte, il est plus bon. C'est 4000, c'est dépassé. Je ne pourrai jamais. Il n'y a que le Seigneur qui peut venir payer ma dette. Alors on va fermer nos yeux.